Boulevard. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Mais nous autres, on en jase pas de gants blancs. Non, c'est pas vrai. On fait de l'analyse rigoureuse. Et on est surtout très conséquent dans ce qu'on analyse. À Boulevard 101, l'émission On en jase, et c'est comme ça pour toutes les émissions. Je rappelle notre programmation. Marceau le matin de 6h à 10h. Le Point de Max avec Max Larouche de 10h à midi. On en jase avec moi et Pascal CV de midi à 14h. 14h à 18h, le retour de Gravel. Et Marceau le soir de 18h à 19h. Météo, c'est 20 degrés à l'heure actuelle. On parle d'un maximum de 23 degrés, 21 degrés ensoleillés demain. Et 20 degrés ensoleillés vendredi. Problème de circulation, Pascal?
Oui, il y a un petit bout quand même. Il y a eu un genre d'accident, une voie bloquée sur l'autoroute 20 Ouest à la hauteur du chemin des Îles. C'est un incident avec pompiers sur place et tout ça. Ça fait en sorte que ça a congestionné. On a encore les impacts de tout ça malgré que l'accident a été déplacé sur l'accotement. Soyez prudents. Alors, il va falloir peut-être mettre un peu moins le gaz au fond là, du côté de l'autoroute 20 Ouest.
Exactement. Donc, il faudrait peut-être l'agrandir, cette fameuse autoroute 20 Ouest. Ouest à Lévis. On s'en va rejoindre le collègue, le chroniqueur qu'on adore, Lambert Drainville, parce que si vous ne le saviez pas encore, oui, c'est remaniement ministériel et les annonces officielles vont commencer dans environ 50 minutes. Lambert, comment ça va, mon chum?
Ça va super bien. Content de vous retrouver comme chaque semaine. Pascal, bonjour.
Bonjour, Lambert.
Parce que la semaine passée, c'était Mathias pour ça.
Ben oui, c'était Mathias qui était là vendredi, en effet. Lambert, je veux t'entendre là-dessus en premier lieu, et c'est ce que j'ai dit avant la pause. Moi, j'en reviens pas. Là. On est à 50 minutes que le nouveau conseil des ministres soit officiel, mais on sait à peu près tout depuis hier. Comment ça, ça coule autant dans les médias? Pourquoi la CAQ n'est pas aussi hermétique?
Ben, si ça coule, Jeff, c'est parce que ça parle. Pas 36 réponses. Ça veut dire que, tu sais, au final, c'est les ministres qui sont les seuls à être informés des informations, disons, de premier lieu. Et donc, ces ministres-là ont des familles, ont des enfants, ont des amis, ont des connaissances, ont des collègues, ont des staffs, des employés qui travaillent pour eux. Fait qu'il suffit qu'une personne dise ça à sa femme, qui dit ça à sa collègue de bureau, puis ça peut couler tout aussi facilement que ça. Mais c'est vrai que c'est assez fou, là, l'information qu'on sait en avance cette année. D'habitude, on connaît un, deux, trois, peut-être quatre noms là, qui font jaser, des rumeurs, surtout beaucoup de rumeurs, beaucoup de zones grises. Mm-hmm. Mais cette année, là, pour ce qui est le premier remaniement, en fait, le premier vrai remaniement d'envergure de M. Legault depuis qu'il est là en 2018, on connaît pas mal. Disons qu'il n'y a pas grande surprise là, pour ce qui est de la cérémonie de 14h aujourd'hui.
Ça semble assez statué et c'est sorti, comme on dit, avant même que le premier ministre nous le présente. Tu parlais de la famille, des amis, des enfants et tout ça. Mais je me demande si aussi il n'y a pas des revendications internes puis ça a coulé parce que tu as quelqu'un qui n'est pas satisfait de son poste ou est bien content de son nouveau poste. Donc, ça s'est jasé. Les journalistes sont constamment dans la vie de ces gens-là. Si ça a coulé, ça peut être à titre revancheur et ou de bonheur?
Oui, ben on va regarder les différentes nominations dans quelques secondes, mais peut-être. Sauf que si on, tu sais, de ce qu'on va jaser tantôt, il n'y a pas beaucoup de gens là, qui ont eu des démotions et qui demeurent quand même au sein du Conseil des ministres. Les gens qui n'ont simplement pas été renommés. On pense à François Bonnardel, on pense à Mme Roy, à André Lamontagne. Je pense pas là, que ces ministres-là, là, quand ils se font dire qu'ils ne seront pas impliqués au sein du prochain Conseil des ministres, qu'ils ont quelconques informations sur les autres nominations. Là. Fait que moi, je pense que c'est juste les ministres qui sont incapables de garder ça pour eux. Puis du moment que tu dis ça à une, deux, trois personnes, ben la nouvelle se répand. Et aussi, ben comme tu l'as dit, il y a des journalistes qui ont développé au fil du temps, des journalistes d'expérience qui ont des relations très, très bonnes avec certains élus. et qui parviennent à aller gratter de l'information par-ci, par-là. Puis quand tu additionnes les journalistes de Radio-Can, les journalistes de LCN TVA, les journalistes...
De Voir la Presse.
Éco, de Boulevard 102.1, ben tu additionnes tout ça, ben éventuellement, voilà. Tout ça s'additionne. Là.
Lambert, dis-moi donc, ouais. Qui est heureux aujourd'hui? Moi, je pense à France-Hélène Duranceau qui accède au Trésor, à Jonathan Julien qui va au transport, même si le transport, ça reste un ministère qui va être très difficile, mais c'est quand même une promotion pour lui. Qui est le plus heureux présentement?
Ah, je pense que pour France-Hélène, c'est effectivement une belle journée. Tu sais, y a beaucoup de gens qui doutaient là, de sa... Disons, certains doutaient même de sa place au sein de ce conseil des ministres-là. Certains disaient qu'en raison de ses enjeux au niveau de ses communications, des différentes petites tempêtes qu'elle a eues à
Par contre,
à
elle a été bonne dans, le dernier mois, le, dans les derniers mois, le livrer la marchandise en termes de logement social et abordable.
Ouais, ben. C'est beaucoup ça qu'on entend. Hein? Les acteurs du milieu nous disent qu'au-delà de ces petites coquilles au niveau communicationnel, le maire Marchand, encore ce matin, était en entrevue au 98.5 ici à Montréal, puis mentionnait comment la collaboration est bonne avec, avec la ministre de l'Habitation, qui va visiblement devenir présidente du Conseil du Trésor. On sait aussi qu'elle a une relation de proximité avec le premier ministre. Elle a une formation en comptabilité comme lui. Elle a travaillé chez comme fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Et c'est ça, ses enjeux principaux étaient vraiment au niveau de ses communications. C'est pas la personne qui a le plus haut niveau d'empathie naturelle, et l'empathie dans un portfolio comme l'habitation, le logement social, les clientèles plus vulnérables, c'est sûr que c'est très important.
Ça a paru, je dirais que ça a paru un moment, là.
Oui, c'est ça. Alors peut-être qu'un portefeuille comme ça, là, Conseil du Trésor, les négociations avec les syndicats, quelque chose de plus
pragmatique,
noir sur blanc, de plus, ouais. De plus carré, de plus justement, où sa formation de comptable et de fiscaliste va être des plus utiles. Moi, je pense que c'est une belle journée pour elle. Puis, tu sais, il y en a plusieurs autres, là, bien honnêtement. Il y a tous ceux qui n'étaient pas ministres qui vont être nommés. On pourra y revenir. Puis, il y a tous ceux, évidemment, qui avaient mentionné au premier ministre vouloir rester dans leur poste. On peut penser à Christian Dubé, Éric Girard, Christine Fréchette, Jean-François Roberge, Simon-Jolin Barrette, tout ça. Ce sont tous des ministres qui, selon moi, sont assez satisfaits de la suite des choses aujourd'hui, là.
Parle-nous de Jonathan Julien, parce que c'en est un qui est très connu ici dans la région. Il a bon, traversé diverses tempêtes au municipal. Il a été un cheval, vraiment un allié de Régis Labeaume longtemps. Ensuite, ça s'est séparé. Il est allé au provincial. On l'a vu quand même être de front. Là. Avec François Legault, on lui a laissé des bonnes enveloppes et aussi de la bonne gestion, on s'entend. Ministre responsable des infrastructures en 2022, il a été membre du Conseil du Trésor en 2024. Bien sûr, responsable de la région de la Capitale-Nationale depuis 2022. Mais ça, ça a créé beaucoup de remous parce que ici à Québec, Lambert, comment c'était reçu? C'est que Jonathan Julien fait pas grand-chose puis il ressemble un petit peu plus au caniche de François Legault pour reprendre des commentaires qu'on a eus au 88-971-1021 du genre « Yabois quand François Legault lui dit « OK », puis arrête d'aboyer quand François Legault lui dit d'arrêter d'aboyer. Donc, ça a déçu beaucoup de personnes. On a senti qu'il était moins proactif. On l'envoie au transport, qui est un énorme ministère. Est-ce qu'on récompense finalement ceux qui disent « vert » quand le premier ministre dit « vert »?
Est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est un cadeau de grec de se faire donner les transports? Moi, je ne rentrerai pas, Pascal, dans les métaphores canines en ce qui a trait à...
Je reprenais les commentaires des auditeurs.
Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est bien correct. C'est bien correct. Chacun a droit à son opinion, mais c'est ça. Oui, effectivement, Jonathan Julien, sans dire que, encore une fois, sans parler de métaphores canines, je n'étais pas plus impressionné qu'il faut... de son travail, le portefeuille des infrastructures, quoique oui, disons, étant un gros portefeuille en termes de financement, étant responsable du programme québécois des infrastructures, ça semble important. Ça reste que le PQI, ce programme-là, c'est une liste des projets d'infrastructures au Québec. Bien honnêtement, le ministre, son rôle en tout ça, il est un petit peu effacé. Là. Tu sais, tu suis la liste, puis le prochain projet qui est prêt à être déployé sur la liste puis à construire, bien, c'est à son tour. Fait que, tu sais, c'était pas le rôle le plus important. Il fallait quelqu'un pour la capitale nationale après, disons, les frictions entre Mme Guilbeault et notamment le maire de Québec. C'est lui qui avait hérité de ce portefeuille-là. C'est maintenant Jean-François Simard. D'ailleurs, j'avais dit, Jeff, quand on s'était parlé il y a quelques semaines, que je ne le voyais pas devenir ministre. Mm-hmm. Eh bien, je me suis trompé. Visiblement, je me suis trompé.
Les meilleurs se trompent, Lambert.
Ben écoute, effectivement, ça arrive à tout le monde.
Et voilà.
Et comme je disais, pour Jonathan Julien, est-ce que c'est vraiment une promotion ou c'est un cadeau de grec? Moi, ce qu'on me disait, c'est que, puis les quelques élus auxquels j'ai parlé, il n'y a pas grand monde, il n'y a même personne là, qui à l'interne disait vouloir de ce portefeuille-là des transports. Déjà, la machine en soi, le ministère des Transports, c'est tout un fouillis. C'est une machine qui est très difficile à contrôler, à mettre le grappin dessus et, disons, d'avoir les deux mains sur le volant. Ils peuvent être très têtus à l'interne. Rajoute à ça la gestion, évidemment, du fiasco de la SAAQ que va devoir faire le ministre Jonathan Julien.
La gestion juste de la SAAQ tout court, je te dirais, là.
Exact. Juste ça, c'est tout un défi. Embarque là-dedans la gestion du ministère en soi. Je pense que, pour moi, cette nomination-là de M. Julien, ça confirme un petit peu qu'il n'y avait pas grand monde qui était intéressé par ce poste-là, parce que, comme j'ai dit, moi, il ne m'a pas impressionné. Et de ce que j'entends, Il n'y a pas grand monde là, qui l'avait dans leurs trois étoiles de la semaine là, au courant de son mandat comme ministre des Infrastructures.
Non, clairement. Lambert, je sais que tu as déjà travaillé avec lui. Lionel Carman, qui demeure aux services sociaux. Il y a une crise d'itinérance au Québec. Il y a une crise à la DPJ aussi. On n'a qu'à penser au rapport là, de la coroner Kamel. Comment tu vois ça? Tu t'attendais-tu à ce qu'il reste là ou tu te disais, ouais, peut-être ça va prendre un vent de fraîcheur compte tenu justement de cette crise-là?
Non, moi, je le voyais rester là. C'est un ministre qui est en place dans ces dossiers-là depuis le tout début, depuis 2018. C'est un ministre qui était recru en 2018, mais qui a pris énormément de galons depuis. Selon moi, pour l'avoir évidemment côtoyé de près, là, il n'y a pas beaucoup de ministres au gouvernement qui maîtrisent leur dossier autant que le ministre Carman. Et tu sais, ce sont pas des dossiers sexy, ce sont des dossiers où tu travailles avec les populations vulnérables, la protection de la jeunesse, l'itinérance, comme tu le disais, la santé mentale, les personnes handicapées.
Une belle sensibilité, ces clientèles-là, Lionel Carman.
Oui, c'est un homme, ben honnêtement, là, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est quelqu'un de très, très humain. C'est quelqu'un aussi de très transpartisan qui va travailler avec tout le monde, peu importe sa couleur politique, peu importe le parti. Puis c'est des dossiers qui sont peut-être pas, comme je disais, les plus sexy, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui est en contrôle dans ces dossiers-là parce que quand ça pète, comme on l'a vu avec la petite fille de Granby, ça pète fort. Et donc, comme t'es constamment en train d'essayer d'éteindre des feux, d'avoir quelqu'un qui est en contrôle, qui est capable d'éteindre ces feux-là pour éviter que ça retontisse dans le tableau de bord du premier ministre. Je pense que c'est un gros atout pour le gouvernement. Puis moi, je le voyais rester là et effectivement, là, il reste là. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que M. Carman, c'est assez connu à l'interne qu'il ne pense pas se représenter en 2026. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Et rappelle-toi, JF, c'est la raison qu'on avait donnée à François Bonnardel pour l'exclure, là, la raison, disons, officielle.
Parce que là, tu as Lionel Carman qui ne pense pas se représenter. Tu as Martine Biron aussi, bon, que perdu son ministère des Relations internationales pour se retrouver à l'enseignement supérieur, mais elle demeure quand même au sein du Conseil des ministres.
Oui, même chose pour Benoît Charrette, que c'est assez clair. Je pense qu'il l'a même dit publiquement qu'il ne se représentait pas. Éric Girard, je pense que tout le monde est pas mal au courant qu'il ne souhaite pas se représenter. Monsieur Dubé, etc. Madame Sonia Bélanger, tous des ministres dont on a une bonne idée qu'ils ne se représenteront pas.
Est-ce qu'on a menti à François Bonnardel?
Ben non, moi, comme je te dis, comme je t'ai dit à plusieurs reprises déjà, malgré que lui, dans son tweet en quittant, a dit que le premier ministre lui avait dit souhaiter vouloir rajeunir son conseil des ministres. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, là. On ne parle pas d'un club de hockey.
On n'est pas en reconstruction du côté de la CAQ.
Oui, c'est ça. C'est pas une question de reconstruire un nouveau club, là. Mais bon, publiquement, il y a aussi le fait, comme on disait, qu'il ne se représentait pas en 2026, qu'il avait joué contre lui, ce qui me porte à croire qu'effectivement, quand on dit que Bonnardel a un petit peu été l'agneau sacrifié pour tous les déboires de la SAAQ, je pense que ça tout pointe en ce sens-là quand on regarde le nombre de ministres qui ont dit ne pas se représenter en 2026 et qui seront renommés ministres aujourd'hui.
Maintenant, parlons d'agneau sacrifié. Qui perd dans ce conseil des ministres, ce nouveau conseil des ministres? On a parlé des gagnants. Maintenant, qui sont les perdants?
Il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu beaucoup de, disons, de mouvements latéraux. Tu sais, Caroline Proulx qui s'en va aux aînés, Kateri Champagne-Jourdain à la famille, Sonia Bélanger à l'habitation, tu sais, c'est pas mal.
Geneviève Guilbeault à faire municipal.
Ouais, ça, c'est pas mal, effectivement, dans le même ordre.
Mais c'est un peu une démotion, ça. Je veux dire, c'est beaucoup moins gros. Mais tu sais, j'ai hâte de voir ça va être qui la personne qui va être aux côtés de François Legault. Mais tu sais, aux affaires municipales, après avoir eu les transports...
Mais c'est surtout son rôle de vice-première ministre, en
oui,
fait.
Oui, mais qui va prendre qui lui... ça? Oui,
ouais, ça, on a, le nom qui court, c'est Christine Fréchette. On va le savoir à 14 heures. Mais c'est surtout à ce niveau-là qu'elle elle a une d'émotion, c'est qu'elle était la deuxième en liste derrière François Legault dans la hiérarchie de l'État et perd ce poste-là. Par contre, Mme Guilbeault, elle avait demandé les affaires municipales, de ce que j'entends. Elle souhaitait être dans un portefeuille qui n'est plus dans la gestion de crise après avoir été à la sécurité publique avec tous les cas de meurtres de gangs de rue à Montréal, par la suite au transport, la SAQ, les feux de forêt, les crises d'un point de service de la SAC. Je pense qu'elle avait peut-être le goût de respirer un petit peu. Et avec le départ de Mme Laforêt, ben, le portefeuille des affaires municipales, c'est devenu possible pour elle.
Est-ce que c'est une stratégie personnelle, tu penses, pour Mme Guilbeault, pour essayer de redorer son blason puis se faire voir autrement d'ici la fin du mandat de François Legault, puis peut-être reprendre un peu de je sais pas moi, de blason doré.
La bête.
Ouais.
Ouais, ben peut-être. C'est sûr que son étoile a beaucoup pâli, puis on lui a longtemps donné des, disons, des aspirations pour ce qui est d'être une éventuelle dauphine à François Legault, si jamais il advenait qu'il quittait. Fait que peut-être qu'il y a un petit peu de ça, de vouloir être en contrôle des dossiers qui sont moins explosifs, puis de redorer son blason. L'autre personne qui, selon moi, au-delà de ceux qui n'ont pas été renommés, évidemment, on a parlé de Bonnardel, de Suzanne Roy et de
André Lamontagne.
Mais c'est ça, c'est Bernard Drainville, malheureusement, pour lui, c'est un ministre qui demeure en poste, mais de passer de ministre de l'Éducation à ministre de l'Environnement, je dois t'avouer que c'est une grosse, grosse, grosse surprise pour moi et pour beaucoup de gens. On ne voit pas vraiment, là, si ce n'est qu'au niveau du fit, un gars que, dès ses premières semaines à la CAQ, qui est allé mentionner « Lâchez-moi avec les GES », qui a été un fervent défenseur du troisième lien, étant député de Lévis, là, se retrouve à l'environnement. Je le vois pas, le lien. Là. Il y a peut-être quelque chose que je comprends pas. Là.
Tu te l'expliques pas, finalement, dans stratégie politique. Là.
Je ne le comprends pas. Puis, tu sais, là, c'est sûr que moi, évidemment, j'ai, disons, un biais par rapport à M. Drainville, mais j'écoutais les différents chroniqueurs ce matin, Alain Laforêt, qui disait, tu sais, est-ce que l'environnement, c'est le portefeuille que tu donnes à un de tes joueurs de premier trio? La réponse à cette question-là, c'est non. Alors, pourquoi là, Drainville à l'environnement? La question est dans l'air. Je ne sais pas comment vous voyez
ben
ça.
Moi, mon hypothèse, c'est que Bernard Drainville va aller faire la job de bras pour François Legault que Mark Carney a amorcé la semaine dernière, c'est-à-dire dire les objectifs qu'on s'était fixés en termes de vente de véhicules électriques tombent à l'eau et on continue avec la vente de véhicules à essence.
Mais tu sais, ça, il savait. Moi, j'analyse la situation comme... Je me ramène à des événements du genre Bernard Drainville revient en politique après avoir été chroniqueur dans les médias, avoir défendu tellement d'enjeux pour la grande région de la Capitale-Nationale et même Chaudière-Appalaches. Présente ici, milite pour le troisième lien. On va de l'avant avec la CAQ, finalement. On arrête le projet. Il reste authentique, il reste honnête. Il faut lui donner. Là, on rend César ce qui appartient à César, mais il est allé publiquement. Il en était émotif de l'annulation de ce projet-là. Il est allé un peu dire qu'il n'était pas d'accord, même s'il était au sein d'un parti qui prenait cette décision-là. Ensuite, on l'envoie à l'éducation. Ça a été très compliqué. C'est jamais un ministère qui est facile en partant. Y a-tu eu Réfifi à l'interne? Y a-tu quelque chose qu'on ne sait pas? C'est un ministre qui est fort. Sans le dire où est fort, on a toujours eu un genre d'envie d'avoir plus de torque en politique du côté de Bernard Drainville. Moi, il y a quelque chose qui se passe au sein de la CAQ, là. Puis c'est pas pour le seul ministre que je me pose la question, mais il y a un enjeu de pouvoir qui existe, on dirait, qui est sous-jacent.
T'en penses quoi, Lambert?
Je sais pas, bien honnêtement, je...
Mais sortons de Bernard Drainville.
Ouais.
T'sais, prenons tout le monde, là. On l'a senti avec Jolin Barrette à un moment. On l'a mis exactement là où il faut qu'il soit, selon moi, pendant plusieurs années. C'est un avocat, c'est un gars qui a fait avancer tout ce qui est justice de main de maître. Après ça, on a pris Mme Guilbeault. On lui a fait faire toutes sortes de stepettes politiques. On l'a mis sur le piédestal, on l'a enlevé, on le ramène. Même chose avec, je trouve personnellement, Bernard Drainville. On lui a tapé sa tête publiquement. Il y a comme un genre de fonction de pouvoir de François Legault, de leadership, là, qui commence à être un petit peu sombre, je trouve, dans le portrait global. Il semble avoir de la misère à ne pas être l'étoile. Puis, permettez-moi de faire un lien avec comment il traite les femmes de sa vie, des fois en point de presse qu'on voulait. Puis ça, c'est vraiment une opinion personnelle. Mais il aime la lumière autour de lui. Ça peut-tu jouer en ce moment dans son remaniement ministériel? Je me pose la question.
Possiblement, tu sais, il y a des tractations, il y a des égos aussi, il y a des relations entre ces êtres humains-là. Moi, je pense que oui, M. Legault, comme plusieurs, là, évidemment, chef d'État, a sa fierté, est quelqu'un qui, depuis le temps qu'il est en politique, clairement, je pense qu'il apprécie le fait d'avoir un certain pouvoir, mais ça reste un joueur d'équipe, M. Legault. Ça reste quelqu'un qui a toujours été très, très fidèle aux gens qui l'ont amené là où il est, qui n'a pas hésité à déléguer du pouvoir, parce qu'on peut le voir de deux façons.
Mais ça, c'est personnel. Oh, je m'excuse, on n'a plus de temps, mais ça, c'est en tout cas, ça, c'est personnel à lui, c'est pas personnel d'équipe. En tout cas, on pourra avoir une grosse discussion, on en fera une à un moment donné,
ouais.
Lambert.
Ouais.
Lambert Drainville, on adore le fait de te parler à chaque semaine, les mercredis et vendredis. C'est exactement ce qu'on va faire vendredi. La poussière va avoir retombé. On pourra regarder encore davantage ce qui va s'être produit cet après-midi à 14h.
Ouais.
Puis,
Hey, tu me laisses-tu deux secondes?
Ben, vas-y.
Je vais closer ça.
Close ça.
On en parle beaucoup de ça, le remaniement, puis c'est très chouette. C'est un exercice qui est le fun pour les tripeux de politique, mais je pense que c'est important de mentionner là, que chez les Québécois moyens, là, ce rebrassage de cartes, là, ça ne dit pas grand-chose, puis ces gens-là vont s'attendre à des résultats là, avant de s'exciter le poil des bras. On en parle beaucoup, mais au niveau de l'impact que ça va avoir sur les sondages, les intentions de vote, tout ça, je garderai les attentes très, très, très basses. Dans le passé, c'est pas des exercices qui ont nécessairement mené à d'énormes changements. On va plutôt regarder du côté de l'ouverture de la session parlementaire le 30 septembre, puis de la prise de parole d'ouverture du premier ministre qui va donner les grandes lignes de quelle va être sa stratégie d'ici à l'élection de 2026. C'est ça qui va être important. Et les résultats, M. Legault va devoir livrer et il lui reste seulement un an.
Bien, on se parlera de ça vendredi, Lambert, si tu le veux bien. C'est très intéressant comme sujet. Merci encore, mon chum, d'être avec nous les mercredis et vendredis. Et on se parle justement à la fin de la semaine.
Merci beaucoup.
Salut.
Salut. Bien. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Au retour, Anne Guérette, chef du Parti du Monde, vient s'asseoir avec nous et son nouveau colistier pour nous expliquer qu'est-ce que le Parti du Monde et qui est ce colistier. Restez avec nous. On en jase.